Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, R. Dubois pour l'interview, émission que vous pouvez écouter sur www.rdwa.fr. Aujourd'hui, nous sommes avec Nance Thomassé. Bonjour.
Bonjour.
Nance, tu es ici pour nous parler d'un projet en construction et même en réalisation et qui s'appelle « Et je choisis de vivre ». Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est ?
Oui. « Et je choisis de vivre », c'est le projet d'un film. Ça commence par une histoire d'amitié entre mon amie Amande, que j'ai rencontrée quand j'étais au lycée de Die, justement, quand j'avais 16 ans, qui est dans le groupe d'amis qu'on a constitué dans la Drôme suite à cette expérience au lycée de Die. Ça a été la première, avec son compagnon Guillaume, à avoir un enfant qui s'appelait Gaspard. Et voilà, Gaspard, à peu près 8 mois et demi, a commencé à déclarer des problèmes de santé qui l'ont amené à l'hôpital. Et ça a fait une expérience assez intense pour Amande et Guillaume, qui sont restés 3 mois et demi à l'hôpital à l'accompagner. Passer d'un service à l'autre à l'hôpital, personne ne savait vraiment ce qu'il avait comme maladie. Et malheureusement, Gaspard est mort à l'âge d'un an, enfin, juste avant ses 1 an. Et bien sûr, c'était terrible pour Amande, terrible pour Guillaume. Et puis pour tous les amis, toute la famille autour, c'était un choc pour nous tous. Et je choisis de vivre, c'est Amande qui est venue me trouver quelques semaines après la mort de Gaspard pour me dire « Voilà Nance, ce que je vis suite à la mort de mon enfant, c'est terrible. J'en perds parfois le goût de vivre. Je suis complètement perdu, je suis dans une société où il n'y a plus de rituel par rapport à la mort, il y a l'enterrement, mais bon, l'enterrement, ça dure un certain temps. La douleur, elle reste après. Je ne sais pas comment faire pour m'en sortir, je n'ai pas d'inspiration à ce niveau-là. Elle me dit, j'ai envie de voyager et de partir à la rencontre de gens inspirants qui ont traversé l'épreuve du deuil et qui en sont sortis grandis. Et elle me demande, comme elle savait que je réalisais des films, elle me dit, est-ce que tu serais d'accord de m'accompagner dans ce voyage et de réaliser un film pour aider toutes celles et ceux qui traverserait un jour l'épreuve du deuil.
Est-ce que tu peux nous expliquer ce que sont les gens inspirants ?
Ouais. Alors dans ce que demandait Amande quand elle m'a dit j'ai envie de rencontrer des gens inspirants, ce qu'on peut appeler aussi des tuteurs de résilience. C'est-à-dire aujourd'hui la résilience c'est un concept qui est assez connu qui consiste après une épreuve douloureuse à retrouver un équilibre et pourquoi pas aussi grandir de cette épreuve. Et pour ça, il y a un élément important dans la résilience, dans quand on vit une épreuve douloureuse dans nos vies, c'est d'avoir une source d'inspiration, quelqu'un qui peut incarner cette résilience. Et donc, dans un deuil, c'est la même chose. Et Amande cherchait à rencontrer des personnes qui ont vécu l'épreuve du deuil et qui ont grandi de cette épreuve. Et en fait, quand elle m'a dit « j'aimerais faire un voyage pour aller rencontrer des gens », moi, comme j'ai l'habitude de voyager un peu à l'improviste, en autostop, chez l'habitant, je lui ai dit « mais carrément, vas-y, viens, on y va, on prend notre pouce et puis on s'en va en stop, on va rencontrer des gens ». Puis là, elle m'a dit « non, moi, je ne pourrais pas supporter de rencontrer quelqu'un qui vit les mêmes questionnements que moi et la même douleur que moi. J'ai vraiment besoin de rencontrer quelqu'un qui a fait du chemin. » D'où son envie de rencontrer des personnes inspirantes.
Alors, c'est ça. Donc, des gens inspirants, c'est des gens qui ont eu beaucoup d'expérience et qui en sont sortis aussi, c'est ça ?
C'est ça. Par exemple, on a rencontré récemment une femme qui s'appelle Mina Goll, et qui a une histoire complètement improbable et terrible aussi. C'est elle avait 2 enfants et son mari, et puis un jour voilà, ça se passait pas bien avec son mari et elle avait envie d'offrir un autre climat à ses enfants, et donc elle décide de divorcer. Et juste après lui avoir annoncé cette nouvelle, elle rentre chez elle et son mari avait brûlé la maison avec les enfants à l'intérieur et lui avec. Et donc, bien sûr, après cette épreuve, Mina Gold, bon, sa vie entière a été détruite, quoi. Tout ce qu'elle avait de plus précieux dans sa vie est parti, notamment ses enfants. Et bien sûr, elle s'est posé la question de mettre elle-même fin à sa vie. Et puis, elle raconte tout son cheminement. Comment est-ce qu'elle a réussi à se remettre de cette histoire ? Et non seulement à s'en remettre, à retrouver un équilibre, mais aujourd'hui, elle a grandi. Elle a vraiment grandi, quoi. Et de l'entendre, cette femme, parler de cet événement, et puis dire aujourd'hui la gratitude et la joie dans laquelle elle vit, c'est hyper, hyper, hyper inspirant, quoi. Et donc, il y en a plusieurs des personnes comme ça. Il y en a environ une dizaine dans le film. Des gens qui ont des histoires complètement... vraiment incroyable, un peu hors du commun, ou aussi des histoires ordinaires, parce que finalement la mort ça nous concerne tous hein, à un moment ou un autre, et qui nous rappelle que c'est pas une fatalité, on n'est pas obligé de mourir avec la personne qui meurt, on peut aussi se rendre encore plus vivant.
Ça fait un moment déjà que vous vous êtes lancé sur ce projet, près d'un an déjà.
Ouais.
Et vous en êtes à quelle avancée actuellement?
Ouais, alors, écoute, là on a fait une bonne partie de l'écriture. On a commencé à tourner certaines images, notamment pour voir un peu comment ça se passait avec Amande, qui n'est pas une actrice. Donc on voulait voir comment elle réagissait aussi avec les caméras, si c'était simple pour elle ou pas, la relation à l'image. Et puis on a aussi fait intervenir les premières personnes inspirantes pour voir un peu comment ça peut se passer dans la rencontre avec Amande. Et bon, on est très content des premières images qu'on a tournées. Et puis là, on en est à finir l'écriture pour un tournage l'automne prochain. L'automne, pour nous, c'est la saison qui incarne le deuil. C'est la saison où les arbres perdent leurs feuilles, ou qui incarne un peu la mort, mais aussi la renaissance qui annonce l'arrivée de l'hiver et du printemps. Et en ce moment, on est à fond dans la levée de fonds. On a besoin de 80 000 euros pour pouvoir commencer le tournage. Et en quelques semaines, on a déjà réuni 110% du budget, donc quasiment 90 000 euros. Et on espère pouvoir atteindre le deuxième palier qui est à 115 000 euros, où là, on va pouvoir faire intervenir d'autres personnes, aborder d'autres thèmes, comme par exemple le deuil prénatal, qui concerne aussi énormément de personnes. Et puis, on aimerait également pouvoir se payer une vraie belle bande originale pour le film. Donc, faire intervenir un musicien qui crée une musique magnifique pour le film.
Et vous avez une idée de ce musicien actuellement ?
Oui, c'est le musicien qui s'appelle Demus Maker. D'accord. D'ailleurs, on peut écouter un petit morceau après de lui, si tu veux bien.
Et si tu l'as amené avec toi, oui, ouais. Pourquoi pas. Et tu pourras même nous le présenter, cet artiste.
Ah, avec plaisir. Ben, maintenant,
maintenant, ouais. Oui.
En fait, Demus Maker s'appelle, en fait, de son vrai nom, Blaise de la Fosse, qui est le musicien avec qui on travaille dans Nuit et culottée, la série documentaire que je co-réalise. Et ça fait donc maintenant environ 6 ans qu'on travaille ensemble. Et moi, je suis vraiment fan de sa musique. Il a une sensibilité extraordinaire pour arriver à capter un moment de rencontre, par exemple dans les voyages, et puis vraiment le souligner avec sa musique. Et puis, c'est un technicien aussi absolument incroyable. C'est un homme orchestre, en fait. Il fait toutes sortes de musiques, du hip-hop jusqu'à la musique classique. Avec cette sensibilité, et aujourd'hui, je serais vraiment honoré qu'il puisse travailler sur notre film. C'est aussi quelqu'un qui a fait la musique du film Divine, qui a été primeuse Oscar à Cannes. Voilà, donc c'est quelqu'un en qui j'ai une grande confiance, beaucoup d'admiration, et il y a aussi une grande amitié avec cet homme. Donc je serais content qu'on puisse coopérer, collaborer sur la création de ce film.
Alors, pour cette souscription, hein, donc, est-ce qu'il y a un moyen de choper quelque chose ou un site ? Est-ce qu'il existe un site ?
Oui, ah ben merci de demander, tu vois. Tu m'aides à communiquer proprement là sur ce thème. Le site s'appelle etjechoisisdevivre.com. Et sur le site, il y a un onglet « Participer ». Donc pour faire une donation. Donc ça envoie sur un autre site de crowdfunding qui s'appelle Eloasso. Et en fait, Eloasso, c'est hyper intéressant pour nous parce que c'est un site associatif qui reverse l'intégralité de ce qui est donné par les internautes. Ce qui fait que d'habitude, quand on va sur un site de crowdfunding, quand on donne 100 euros par exemple, il y a 7 euros qui revient au site de crowdfunding. Là, quand on donne 100 euros au projet, il y a 100 euros qui arrivent pour le projet. Et voilà, donc il suffit d'aller sur le site etjechoisisdevivre.com et tout est expliqué dessus.
Le titre « Et je choisis de vivre », vous l'avez choisi comment ?
Alors, c'est une très bonne question. On s'est beaucoup questionné sur le titre parce qu'aujourd'hui, le sujet du deuil, ça fait peur. C'est un tabou. Alors, c'est rigolo parce que c'est un sujet qui nous concerne tous. On est tous concernés à un moment dans notre vie par la mort, par le deuil. Alors, soit celle d'un proche, soit la nôtre. Et pourtant, c'est le sujet qui nous divise le plus. Aujourd'hui, il y a des études qui ont été faites en 2016 qui montrent que 4 Français sur 10, en ce moment même, sont en train de vivre un deuil. Et pourtant, ça reste, ça reste un tabou, on en parle très peu. Et ce que j'ai remarqué, c'est que toutes les personnes, à un moment donné, qui arrivent à traverser cette épreuve, ça semble passer par un choix. Un choix de vivre, que ce soit de vivre pour ses enfants, pour les gens qui restent, parce qu'on a un sens à sa vie, ou que ce soit pour soi-même ou pour quelque chose. Mais les gens semblent à un moment donné faire un choix. Et c'est pour ça qu'on a voulu appeler ce film « Et je choisis de vivre ». Et on le met au présent, « Je choisis de vivre », on ne dit pas « Et j'ai choisi de vivre » parce que c'est un choix qui s'actualise tout le temps. Et voilà, moi j'ai rencontré une femme dans un voyage qui m'a décidé à mettre ce titre-là. Et elle me disait qu'elle avait perdu son mari et que quelques années plus tard, elle perd son nouveau mari et que là, elle était tellement désespérée qu'elle s'est laissée mourir dans sa maison. Elle ne voyait plus personne. Il y avait juste un ami à elle qui venait lui apporter une pomme tous les jours pour qu'elle continue à s'alimenter. Et puis elle mangeait à peine, elle croquait un peu dans la pomme, mais elle lui parlait très peu. Et puis un jour, il vient la voir et puis il lui dit, tu sais, maintenant, il faut que tu me dises quoi. Parce que soit tu as envie de vivre et je peux t'aider, soit tu veux mourir et je peux t'aider aussi à mourir. Mais dis-moi. Et là, elle a réfléchi et puis elle lui a dit « Ok, je choisis de vivre ». Et à partir de ce moment-là, elle a commencé à remonter la pente et puis à avancer. Et quand j'ai entendu cette histoire, je me suis dit « ce sera le titre de notre film et je choisis de vivre ».
Non, tu pourrais peut-être parler de toi aussi. C'est Nu et culotté qui t'a fait connaître particulièrement.
Ouais. Alors en tant que réalisateur, bien sûr, c'est Nu et culotté. Moi, j'ai rien réalisé d'autre comme film que Nu et culotté. En 6 ans, on a réalisé 21 documentaires de 52 minutes, toujours sur le thème du rencontre, de la rencontre, du voyage, et aussi du tabou, quoi. Parce que la nudité, c'est aussi un tabou. L'argent, c'est aussi un tabou, quoi. Et moi, je sais que quand on a lancé Nu et culotté, en France, on a, avant que les films sortent, France 5 avait lancé un communiqué de presse sur Internet disant qu'il allait y avoir 2 voyageurs qui allaient partir dans un voyage tout nu. Et certaines personnes avaient compris qu'on allait voyager entièrement tout nu et se présenter tout nu devant les gens. Et on a reçu des menaces de mort pour ça. Alors moi, je flippais pas mal. Puis je sentais vraiment qu'on tapait vraiment dans un tabou, quoi. La nudité et la mendicité. Et aujourd'hui, c'est toujours ça. On s'intéresse à un tabou, la mort, le deuil, la douleur. Et dans les deux cas, Nu et culotté et Je choisis de vivre, on se rend compte que derrière le tabou, il y a énormément de vie, quoi. Moi, j'ai jamais rencontré autant de vie que dans ces voyages nu et culotté, à voyager sans argent et tout nu. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est la même chose. Là, on vient de faire une tournée de conférences pour la levée de fonds. On a fait 14 conférences en 3 semaines. Et les salles étaient remplies tous les soirs, quasiment. Et c'est hallucinant le bien que ça fait de parler de ça, en fait. Parce que finalement, on a très peu d'espace pour parler de ces sujets, mais quand quelqu'un ouvre un espace pour ça, ça fait du bien. Donc voilà, pour répondre à ta question, moi j'étais surtout connu par rapport à Nu et culotté. Et puis quelque chose qui m'amène aussi à ce projet, c'est que moi j'ai perdu ma sœur quand j'avais 16 ans. Et j'ai pu mesurer comment ça fait du mal dans une fratrie, dans une famille. Quand un membre de la famille disparaît aussi brutalement, ma sœur est morte dans un accident de voiture. J'ai vécu des années assez chaotiques, on va dire, dans ma famille, où c'était extrêmement difficile d'en parler, notamment avec mon père. Et j'aurais tellement aimé à l'époque avoir un outil pour aborder ce sujet en famille, au lieu que ça nous divise, que ça nous réunisse. Donc voilà, pour moi, c'est aussi ça, ma motivation dans ce film. Je suis vraiment heureux aujourd'hui d'offrir au monde un outil qui, je l'espère, apaisera les cœurs et créera de la solidarité, un endroit où voilà, on a beaucoup d'agitation et de dispersion et de division autour de ce sujet.
Tu parlais de douleur aussi, donc comme le tabou.
Ouais.
Et tu parles de quelle douleur?
Alors, je parle de la douleur de perdre un être cher, quoi, quand on. Bon, moi, je suis pas papa, hein, je connais pas le fait de perdre un enfant, mais j'ai beaucoup passé de temps avec Amande qui a pu m'expliquer ce que ça fait. C'est comme si on lui enlevait la chair de sa chair, quoi. C'est insupportable. C'est insupportable. J'ai passé des jours chez elle après la mort de Gaspard et j'ai pu voir. Je sais pas si j'ai pu mesurer parce que je suis pas dans sa peau, mais j'ai pu voir l'intensité pour elle et pour son compagnon Guillaume, mais aussi pour les grands-parents, pour toute la famille. C'est une douleur qui est insupportable. Moi, pour te dire, je vais juste parler de moi là, dans ma famille. Quand ma sœur est morte, mon père, je lui disais, mais qu'est-ce qui se passe pour toi? Alors, je lui disais pas clairement comme ça. J'étais assez jeune, mais j'avais juste envie d'être en lien avec lui. Et puis, il me disait, mais moi, c'est pas. Je peux pas en parler, en fait. C'est trop intense, c'est trop fort, je peux pas en parler. Et un jour, à force de le questionner, il a simplement pris le saladier en terre cuite de la famille, celui où on faisait les gros plats le soir. Il l'a pris dans ses mains et il l'a laissé tomber par terre sur le sol en carrelage. Le saladier s'est fracassé en mille morceaux. Il a dit, voilà comment je me sens. Donc c'est des douleurs qui sont inexprimables. Et comme ça peut pas être nommé, souvent, on se sent très seul avec.
On va peut-être parler de musique. Est-ce que tu nous as amené donc un morceau? Et peut-être nous dire pourquoi celui-ci?
C'est un morceau qui s'appelle Truth de Alexander et qui raconte en fait. J'aime beaucoup ce morceau. En fait, il y a une phrase dedans qui dit My darkness is shining. Donc voilà, ma noirceur, mon ombre est brillante, quoi. Et c'est un peu l'histoire de ce film, quoi. C'est d'aller voir que dans la douleur, dans le chaos du deuil, ben, il y a aussi de la vie, il y a aussi des ressources. Et nom de Dieu, il y a tellement, tellement de ressources. Armel qui intervient dans le film et qui a tellement aussi aidé pour le film, pour la tournée de conférences et qui nous aide encore aujourd'hui pour la promotion du film. Elle a perdu son enfant il y a 16 ans et puis elle dit. En fait, la mort de mon fils m'a emmené à visiter tous les endroits en moi qui étaient morts. Et finalement, c'est mon fils qui m'a ramené à la vie. Et voilà, moi j'aime beaucoup cette chanson, c'est ça. C'est My Darkness is Shining, quoi. Il y a de la vie, il y a de la lumière dans l'ombre.
I've seen a million number doors on the horizon. Which is the future you choose? friends, and before you gon' die, I'll tell you about a secret I've been on the mind. Every little lie in this world come from the Bible. Say you my love, say you're my home. Took my chin back, slit my throat, take a bath in my blood, get to know. All out of my secrets, all my enemies are turning into my teachers. Because life's blind and no way dividing what's yours and mine when everything's shining. Hey, your darkness is shining, my darkness is shining. Have faith in yourself. True. Yes, I'm only loving, only trying to only love, swear to God. Tryna love you, I only wanna love you, but it's getting hard. Love you when I'm feeling lonely. Love you, only love you. I swear to God, I'm tryna love you, only love you. I swear to God, it's getting hard. Love you, I only wanna love you, but it's feeling lonely. Love you when I'm only feeling lonely. Only love you. You say it ain't loving, ain't loving, ain't loving, ain't loving my love.
Comme des promenades en fait, ce sont des promenades.
Ouais, ce sont des, je dirais des voyages, et plus précisément du vagabondage. Ce que j'entends par vagabondage, c'est un voyage où la destination n'est pas forcément la plus importante. On va plus s'attarder sur la manière de voyager, et la manière de voyager, c'est voyager avec le moins possible, le baluchon. Nous, on voyage avec un baluchon, on n'a pas d'argent. Et on dort chez l'habitant. Et finalement, c'est nos besoins vitaux, manger, se déplacer, se boire, dormir, qui vont être un prétexte pour rencontrer les gens. Et donc la vraie destination, en fait, c'est ces rencontres qu'on fait sur le long de la route.
Et donc, je reviens à « Et je choisis de vivre », c'est aussi des voyages pour aller vers... vers quoi ?
Pour aller vers quoi? C'est des voyages pour aller vers quoi? Eh ben, alors je vais faire le pont comme ça. Dans Nuit et culottée, quand on rencontre les gens, quand on rencontre l'humanité d'une personne qui accepte de se livrer à nous avec honnêteté, à chaque fois que moi j'entends une personne me dévoiler son intimité, sa vulnérabilité, son humanité, quelque part elle m'autorise moi-même à accueillir ma propre humanité. Et l'idée de « Je choisis de vivre » pour Amande, c'est la même chose. Elle va rencontrer des gens qui ont traversé une épreuve et qui vont lui témoigner de leur humanité, et pour qu'Amande puisse aussi s'autoriser à vivre les différentes étapes de son deuil. C'est un peu la magie des rencontres, c'est ça que j'adore dans les rencontres, c'est qu'on est des miroirs les uns pour les autres et on peut être profondément inspirant.
On va aller plus dans le côté informel. Est-ce que vous pensez peut-être, ou toi, venir prochainement sur le Diwa pour donner une conférence? Est-ce que ça a eu lieu déjà?
Mais tu sais que j'adore tes questions en fait. J'adore tes questions parce que tu mets le doigt exactement là où il faut en fait. Oui, on donne une conférence. On donne une conférence le 4 avril aux Amanins. Voilà, donc c'est à 19h30. Et pareil, pour réserver les places, il faut aller sur le site etjechoisisdevivre.com. Et sur le site, il y a un onglet conférence et tout est écrit dessus. Il y a un petit formulaire à remplir simplement pour réserver. L'entrée est de 5€. Et voilà, il y aura Amande qui sera là. Il y aura aussi Armel, donc une des personnes inspirantes que Amande va rencontrer dans le film, dans le voyage. Et c'est un moment. C'est voilà, ces conférences, c'est vraiment des moments pour moi hyper nourrissants, très très lumineux. Finalement, c'est une conférence sur le deuil, mais on ne fait que parler de la vie. Et c'est que ça en fait. Alors sans exclure la douleur, hein, bien sûr, mais les retours qu'on a depuis le début de ces conférences, c'est des gens qui renaissent, quoi. On a des retours hyper encourageants de gens qui nous disent ben, après la conférence, j'ai envoyé une lettre à ma mère que j'avais pas vue depuis 12 ans suite à la mort de ma sœur, et là j'ai eu envie de renouer du lien avec elle. Ou des gens qui se disent ben, voilà, maintenant je m'autorise davantage à vivre toutes les étapes de mon deuil. Et aujourd'hui, moi, je suis très heureux de pouvoir offrir ces espaces autour d'un sujet dont on entend très peu parler. Moi, j'ai pas appris autour de la mort, ni dans mon éducation, ni à l'école. Et je me dis, ben, c'est à nous aujourd'hui d'ouvrir des espaces pour aborder une question aussi essentielle que celle-ci.
Cette démarche, vous la pratiquez en autonomie quelque part par ce procédé de crowdfunding, mais est-ce que vous avez fait des demandes aussi auprès de collectivités ?
Oui, alors pas de collectivité d'une boîte de prod. J'étais allé à Paris rencontrer une boîte de production parce que je me disais, ben voilà, j'ai déjà fait plus de 20 films. Les boîtes de production, les chaînes télé me connaissent, ont confiance en moi. C'est des films qui passent en prime time sur une chaîne nationale, sur France 5. Donc je me dis, bon, bah, ça va être facile. Et le producteur, quand je lui présente le sujet et je choisis de vivre, il me répond, tu sais, non, on t'aime beaucoup, mais ce sujet, ça va pas être possible. C'est trop, trop, trop douloureux. Il y a personne qui a envie d'entendre parler de ça. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était pas évident de proposer des sujets comme ça au grand public directement via la télévision. Donc on a choisi une autre démarche et on s'est dit, ben, si les télés ne peuvent pas prendre parce que ça ne correspond pas vraiment à leurs attentes, eh ben, on va le faire entre nous. Et aujourd'hui, c'est plus le projet d'Amande ou d'Amande et de ses amis, c'est un projet de société. On se rend compte, on est à 40 jours du début du crowdfunding, on en est déjà à 89 000 € réunis autour du sujet du deuil par 1700 donateurs, plus de 1700 donateurs. Donc on se rend bien compte que c'est plus du tout un sujet qu'on a envie de mettre sous le tapis ou de balayer, c'est quelque chose, on pressent quoi. Puis moi je le vois, il y a plein de films qui sortent autour de ça. Il y a un superbe film avec Will Smith qui est sorti il n'y a pas longtemps qui s'appelle Collateral Beauty ou La Beauté Cachée. Je fais que de voir en ce moment des films ou des personnalités connues qui commencent à raconter aussi la mort d'un enfant, la mort de leurs proches et qui le racontent au grand public. Donc il me semble aujourd'hui qu'on arrive à une étape où ouais, on sent que c'est important de se réconcilier avec cette facette-là de la vie. Parce que moi, j'ai jamais vu que rester fâché avec la mort, ça produise du bonheur. Au contraire, ça produit de la tension, ça produit de la peur. Mais par contre, accepter ça, l'accueillir comme une réalité, ouais, il y a quelque chose qui s'apaise. Et puis, il y a beaucoup plus de joie et de gratitude dans la vie.
Pour sortir de cet état de vivre qu'est le deuil, par exemple, est-ce que l'humour a sa place dans ce que vous allez concevoir avec et si je choisis de vivre
si je choisis et je choisis de vivre, ouais, l'humour a une grande place en fait. L'humour, c'est magnifique. L'humour, c'est moi quand je parle avec Amande. Et ça depuis le début, hein, même depuis quelques jours après la mort de Gaspard, il y a quelque chose qu'Amande n'a pas perdu, c'est son sens de l'humour. Et je le trouve mais tellement beau, quoi, son sens de l'humour. Ça enlève pas la gravité et la douleur, mais ça ramène de la vie. Je me souviens de moments superbes où Amande, on essayait de trouver un nom pour le collectif qu'on était, pour parce qu'on se mettait à travailler sur ce film et Je choisis de vivre. Et au début, on savait pas trop comment allait s'appeler le film, alors on essayait de trouver des noms. Et puis Amande trouvait des noms complètement farfelus. J'ai un peu honte, je vais pas les citer, mais on en, c'était morbide, mais on en rigolait. Et ça nous permettait de prendre un peu de détachement autour de cette question, ne pas la prendre aussi sérieusement, tout tendu, tu sais un peu l'ambiance un peu solennelle d'un enterrement où on ne s'autorise pas à sourire. Et depuis le début, Amande, elle a choisi de garder son sens de l'humour, elle a choisi de garder du lien avec les gens, d'en parler, de ne pas en faire un tabou. Et donc oui, il y aura de la place pour l'humour dans ce film. Il y a même une clown qui va intervenir à un moment. Il y a Amande qui va continuer à raconter ses blagues pendant le tournage, pendant le film. Et ça, c'est super important en fait, parce que on n'est pas du tout là pour faire un film qui donne envie de déprimer quoi. C'est un film qui est là pour réveiller notre envie de vivre, pour nous ressusciter quoi. Et l'humour, ça fait pleinement partie de ça.
Toi, Nance, tu es originaire du Diwa ou d'autour ?
Alors moi, je suis originaire de Grenoble. Et voilà. Et quand j'étais enfant, avec ma mère, on venait passer nos vacances dans le Diwa, dans la Drôme. On partait avec la vieille Renault 21, avec toute la famille. Et puis on allait camper au bord des rivières, on pêchait des poissons à main nue. La fourchette, je l'ai pêché les poissons quand j'étais petit. Et on campait au bord des rivières. Et puis moi, la Drôme, ça a toujours résonné avec vie sauvage, aventure, voyage, vacances. Et aujourd'hui, j'y vis et je suis très heureux d'être ici. Et puis après, il y a eu le lycée. J'ai fait ma première et ma terminale ici, qui reste 2 années en or dans ma vie.
Et tu t'es destiné à quel métier en finale ?
Ben après le lycée, comme j'avais des bons résultats, je me suis dit ben je vais faire des études scientifiques. J'ai fait un bac scientifique et je me suis dit ben je vais partir faire une école d'ingénieur. Donc je suis parti, j'ai fait 5 ans d'études d'ingénieur en génie civil, donc dans la construction de maisons écologiques. Et suite à ces 5 années d'études d'ingénieur, je me suis dit je m'y retrouve pas trop dans un bureau d'études devant un ordinateur. Ça me plaît l'écologie, mais aujourd'hui j'ai envie de la vivre de manière nomade. Donc je me suis dit, je vais passer de l'écologie sédentaire à l'écologie nomade. Et je suis parti pendant 2 ans avec un ami, Guillaume Charouin, pour faire un voyage, toujours sur le thème de l'écologie, où on s'est dit, on va partir voyager avec un petit budget, sans avion, tout en stop et chez l'habitant. Et en revenant de ce voyage, en fait, j'ai fait ma formation en vagabondage. Et c'est là que je suis devenu réalisateur. Réalisateur de films de vagabondage.
Pour finir l'émission, on va peut-être passer le deuxième morceau que tu nous avais amené.
Ouais, hein, ouais, super.
Et puis, bonne soirée en tout cas.
Ouais, alors je veux bien donner une petite précision sur ce
tout
morceau.
À fait.
C'est ok. J'ai remarqué qu'il y avait quelque chose qui était très puissant pour accompagner dans le deuil. C'est l'écoute d'un ami ou d'un proche. Et ça, c'est une arme d'apaisement massif, comme je l'appelle, quoi, l'écoute ou l'empathie d'un proche. Quand un proche arrive à nous écouter dans notre douleur ou dans ce qu'on traverse, et qu'il arrive à nous tendre la main, juste à nous rejoindre sans nous donner un conseil ou essayer de nous aider, mais juste à nous dire « je suis là et je te tiens la main là où tu es ». Et ça m'émeut d'en parler parce que je connais rien de plus beau en fait que cette posture-là d'écoute et d'empathie pour aimer quelqu'un. Et ben, j'ai une chanson moi qui me rappelle en fait à cette beauté de l'empathie qui s'appelle See Me Beautiful et qui est chantée souvent par un homme qui s'appelle Marshall Rosenberg et qui a énormément travaillé justement à faire connaître l'empathie et à la rendre accessible à chacun. Et See Me Beautiful, elle raconte avec quelques notes de musique et des paroles bien choisies comment ça peut être simple et si puissant de voir la personne qu'on aime, de la voir dans sa beauté et dans sa lumière, pour pouvoir l'accompagner dans ce qu'elle traverse.
Eh bien, merci, Nance, en tout cas, et puis je te souhaite une bonne soirée.
Merci beaucoup, à bientôt.
Au revoir.
See me beautiful, look for the best in me, that's what I really am, and all I wanna be. It may take some time, it may be hard to find, but see me beautiful. See me beautiful each and every day. Could you take a chance? Could you find a way to see me shining through in everything I do, and see me beautiful?